France Musique. Musique Matin. Saskia Deville. France Musique.
Et nous sommes le samedi 27 février, soyez les bienvenus sur France Musique. Félix Levaché est à la réalisation, Alexandre Biard et Dalia à la technique. J'espère que vous avez passé une très belle semaine, peut-être en vacances. En tout cas, nous sommes là pour vous accompagner ce matin et voici le menu du jour. À 7h45, la mezzo-soprano Lucile Richardot partagera un croissant et un choix musical avec nous. À 8h, dans sa chronique Battement de cœur, on retrouvera Marc-Olivier Dupin qui nous parlera de ce florilège vocal de Tours qui se tiendra, on l'espère, les 18 et 20 juin prochains. À 8h15, notre reportage qui sera signé, comme toujours, par Sophie Anastasio. Notre invité, 8h30, Alain Guazelli, musicien, cofondateur de l'association Lutherie Urbaine, créateur de nouvelles lutheries à partir de recyclage de matériaux et d'objets usagés. Et puis à 8h50, nous retrouvons bien sûr Christophe Chassol pour une troisième et dernière grande chronique dédiée à Chick Corea. Très bon réveil à notre écoute. Piet Keuken, Bartolt Keuken et Wieland Keuken pour démarrer ce matin avec cet extrait, ce troisième mouvement du trio en ré majeur pour piano, pianoforte, flûte et violoncelle de Joseph Haydn. Je vous propose de poursuivre à 7h35 avec cet extrait du Chant de la Terre composé par Gustav Mahler en 1908. Une puissante symphonie avec voix enregistrée en décembre 2019 par l'ensemble belge Hut Collectif dans un arrangement pour 15 instrumentistes réalisé par Reinbert de Leeuw. Et parmi les deux solistes se trouve la mezzo-soprano Lucille Richardot qui chante de la beauté des jeunes filles sur les rives qui cueillent des fleurs de lotus. Je vous propose de l'écouter.
Thank you.
De la beauté, extrait du Chant de la Terre de Gustav Mahler dans cet arrangement signé par Reinbard de Leeuw qui dirigeait ici Eut Collectif. Et puis avec Lucille Richardot aussi, extrait de ce disque paru en septembre chez Alpha en partenariat avec France Musique. Et c'est l'heure du choix musical d'une artiste à l'heure du petit déjeuner. J'ai d'autant plus de plaisir de recevoir Lucille Richardot ce matin. Bonjour Lucille.
Coucou Saskia, coucou tout le monde.
Mais coucou Lucille, comment allez-vous?
Oh bon, ça va comme un samedi matin.
Comme un samedi matin.
Je viens juste de me lever.
Oh mais vous venez voilà. Nous offrir une caresse au réveil. Moi je voulais déjà vous remercier pour ce disque magnifique. Et puis.
Bah oui, ça réveille en plus, hein. Quel choix.
Oh mais non mais vraiment. Oh oui, un réveil en douceur c'est bien aussi, hein, de temps en temps. Enfin. Ah, oui. Que de beauté. En tout cas, vous nous avez habitués à la musique baroque, mais Mahler vous sied à merveille. Allons-nous vous entendre plus régulièrement dans ce répertoire-là?
Oui, enfin, je pense et j'espère. En tout cas, pour les Belges, c'est bientôt, quoi. C'est dans un peu plus de 2 semaines.
Effectivement, il y a un concert prévu pour nos auditeurs belges qui nous écoutent le 17 mars, concert Beaux-Arts qui se tiendra à la Monnaie. On croise les doigts, évidemment. Lucie Richardot, comment se passe cette période pour vous? Comment trouver de la motivation alors que les salles de concert sont fermées?
On arrive à en trouver quand même parce que les projets continuent malgré tout. Alors, dans le secret des alcôves, évidemment, il y a des enregistrements qui se passent, qui étaient prévus de toute façon. Et puis d'autres qui se rajoutent pour convertir les concerts, entre guillemets, perdus en captations. Les fameux live Facebook, les machins sans public et tout ça. Et on a toujours un peu de public quand même, déjà à commencer par les interprètes. Et puis les équipes techniques, nos équipes administratives, les équipes aussi des lieux qui nous accueillent. Donc on n'est jamais tout seul, tout nu face à une caméra et un micro. On a quand même un vis-à-vis, quelque chose à faire. Quoi.
Quelques membres du public ou des équipes techniques ou des salles qui vous accueillent pour assister effectivement à ces captations qui sont nombreuses pour vous, Lucie Richardot?
Je dois admettre que je m'en sors pas trop mal parce que bon, j'ai évidemment eu des annulations en cascade, mais franchement, je m'en sors bien. Je pensais prendre des vacances, et ben c'est raté. Voilà. J'ai eu quand même pas mal de choses, notamment à partir du mois de décembre. Bon, évidemment, on avait repris pas mal comme tout le monde en septembre-octobre et puis badaboum fin octobre. Et puis en décembre, il y a eu quand même pas mal de choses, notamment à l'auditorium du Louvre, notamment au TCE, au Théâtre des Champs-Élysées. Et tout ça toujours avec mes fidèles amis de correspondance. Donc ça risque pas de passer. On sort d'un enregistrement. On va avoir une captation du spectacle Songs d'ici une dizaine de jours. Donc voilà, on ne chôme pas et eux ne chôment pas parce qu'ils arrivent à mettre en place ça très rapidement, surtout à trouver des financements parce que c'est pas anodin. C'est pas on va prendre un iPhone, décider comme ça à brûle pour point de faire une captation. Non, il faut trouver un financement en plus pour payer les équipes de captation, forcément. Et puis de trouver des réseaux de diffusion pour pas que ça tombe complètement dans le néant. Ça va pas juste passer sur Facebook. Ça va faire l'objet d'un vrai film, par exemple, en ce qui concerne Songs. Voilà. Et puis, bon, j'ai eu évidemment une production à Rouen pour parler des choses qui sont pas baroques. J'ai fait mon premier Péléas et Mélisande de Debussy à Rouen au mois de janvier.
Absolument.
Et l'intégralité de la production a été conservée dans ces dates. On a fait les trois dates qui étaient prévues, mais qui ont servi à des captations, enfin une captation télé, une sécurité, une captation France Musique, voilà.
Absolument, qui a été diffusée le 6 février dernier, d'ailleurs, dans l'émission de Judith Chen. Vous pouvez aller réécouter cela sur le site de francemusique.fr, bien sûr. Et vous incarniez Geneviève, hein, la mère de Péléas.
Voilà. Dans cette... Et de Golo,
voilà. Et de Golo, évidemment.
Ben,
évidemment, ne l'oublions pas, quand même.
Voilà.
Alors, j'ai envie qu'on parle un peu de sport, parce qu'on en avait parlé ici dans cette émission, Lucie Richardot. Une tournée à vélo avec l'ensemble correspondant. Sébastien Dossé était venu me parler de cette tournée qui avait eu lieu l'été dernier. Ici, nouvelle date pour ceux qui souhaiteraient se joindre à vous. Ce sera du 23 avril au 1er mai. On sait déjà où vous allez passer, Lucie Richardot, la tenue que vous allez porter, tout ça.
Alors, pourquoi la tenue? Non, mais entre femmes, on n'est pas obligé de parler de tenue quand
non,
même.
Non, oui, c'est vrai. Oh là là, je suis si cliché.
Non, et en plus, ça risque de pas être sexy parce que, bon, évidemment, on sera quand même en tenue de concert normale, là, si j'ose dire. Mais je pense qu'on peut s'attendre à tous les temps, à cette époque-là de l'année, dans ce coin de France, sans vouloir et rien stigmatiser. On reste au mois d'avril, donc on risque d'avoir du crachin. Donc on risque d'arriver avec nos bottes ou nos ponchos, nos vêtements de pluie, quoi. Donc, moi, en plus, je peux même pas vous parler d'expérience précédente car je n'étais pas à la première édition.
Absolument, c'est votre grande première.
Voilà, donc je choisis la pire saison. Non, la pire saison, il va faire extrêmement beau.
Oh, il va faire magnifique, moi j'en suis certaine. Et puis on avait parlé de la tenue du joli cycliste de Sébastien Dossé quand il était venu dans cette émission, je vous rassure, ce n'est pas rien qu'à vous de poser cette question.
Oui.
Le programme...
Il s'était bien amusé avec le choix des cyclistes.
Ça, c'est sûr.
Enfin, des combinaisons, quoi.
Le 23 avril, vous passerez à Bec et Loin, le 24 à Chamblac, le 25 à Bernay, le 27 à Noiron, l'Abbaye, le 29 à Caen, le 30 avril à Belleroy et le 1er mai à Port-en-Bessin. On en reparlera bien évidemment dans cette émission.
Oui, parce qu'il y a des choses qui doivent encore se mettre en place en fonction de la météo, en fonction des distances, parce qu'il y a plusieurs, notamment pour le 26, je crois.
Exactement,
il y a plusieurs options d'étapes
qui est encore à déterminer.
76 km d'écart entre les deux étapes, donc pour des novices, c'est quand même pas anodin.
C'est quand même un petit peu sportif, effectivement, parce qu'il faut assurer le spectacle, le concert du soir.
Oui, c'est ça, faut pas s'endormir sur son pupitre.
Alors, on ne va pas s'endormir pour la suite, puisque vous allez nous présenter votre choix musical. Pour nous, rien que pour nous, qu'avez-vous choisi, Lucide Richardot?
Alors, j'ai choisi un coup de cœur relativement récent, puisqu'il s'agit d'un concert qui va bientôt être diffusé sur vos ondes, je crois.
Absolument.
Et qui était en direct sur le site de la Philharmonie de Paris. Donc, c'était un live de mercredi dernier, je crois, le 17 février, où les Arts Florissants, en équipe réduite et dirigée par Paul Agnew, ont chanté un programme de contrefaçon, voilà, de contrafacta plutôt, hein, on va dire, au pluriel contrafactum, dont des grands standards des madrigaux et des airs de Monteverdi, normalement composés sur un texte profane au départ, mais repris sur un texte sacré. Voilà, donc ça donne un tout autre univers. Et alors moi, dans cette soirée, ce qui m'a le plus surprise et le plus touchée, c'était une intervention un petit peu inattendue de mon collègue et ami et voisin Florian Carré, qui est claveciniste et organiste. Là, il tenait la partie d'orgue positif parce qu'il y avait qu'un seul instrument dans cette soirée très vocale. Et du coup, ils étaient déjà quand même une bonne grosse dizaine de chanteurs. Et ben, il n'y avait pas encore assez de chanteurs. Ils l'ont obligé à chanter lui-même. Et heureusement, il a fait le jeune cœur de Paris quand il était plus jeune. Il a quand même toujours continué à chanter. Et il est chef de chant. C'est mon chef de chant aussi, donc il me fait travailler mes partitions baroques. Et là, il s'est retrouvé à devoir assumer cette gageure qu'est un Richard Carr de Frescobaldi où la partie de chant est imposée à l'organiste. Voilà, donc c'est une ligne qui est rajoutée au-dessus de ce qu'il doit jouer et il doit chanter en même temps et ne pas se démonter. Et franchement, cette apparition soudaine, je m'y attendais tellement pas que bah, ça m'a arraché quelques larmes, je dois bien en avouer. C'était tellement beau et tellement simple en même temps. Donc,
et bien,
voilà.
Et bien, on l'écoute. Merci Lucide Richardot. À très bientôt.
Merci Saskia. À très bientôt et bonne matinée.
Merci. Florian Carré à l'orgue et au chant ici pour cet extrait de ce concert des arts florissants à la Cité de la Musique. C'était le 17 février dernier, concert qui sera très prochainement diffusé sur France Musique. Et c'était le choix de Lucile Richardot, rien que pour nous ce matin. Un mot sur cette série baptisée L'âme sœur qui sera diffusée sur France Musique du 1er au 5 mars prochain à 23h. Une série en 5 épisodes produite par Evelyne Bloch-Dano qui raconte la relation que Nathalie Bauer-Lechner entretenait avec Mahler. Amie, confidente et admiratrice du compositeur, cette femme était également musicienne, elle était altiste. L'autrice fait donc, avec cette série, écho à son livre qui sortira le 9 mars prochain chez Stock en partenariat avec France Musique. Et à cette occasion, je vous propose ce matin de gagner un exemplaire du disque qui paraît en parallèle de ce livre. Son titre, Malheur intime, enregistré par le trio George Sand, la soprano Jennifer Tani et l'alto violaine Desperou. Il vient de paraître sous le label Elstir et présente des œuvres symphoniques de Malheur sous un angle intimiste inattendu. À noter son livret qui apporte des éclairages rares, voire inédits sur Gustav Mahler, sur son entourage, sur les œuvres enregistrées, grâce notamment à des écrits et entretiens d'Evelyne Bloch-Dano. Alors pour tenter votre chance, rendez-vous sur francemusique.fr, sur la page de l'émission Musique Matin. Vous cliquez sur « Contactez-nous » et vous nous laissez la bonne réponse et vos coordonnées, la bonne réponse à la question qui va suivre. Quel était le prénom de Mahler ? Est-ce Gustave, Tintin ou Giuseppe ? Votre réponse sur francemusique.fr. Bonne chance à vous.
Samedi à l'Opéra, de 20h à 23h, Judith Chen, France Musique.
Cette semaine, événement lyrique, je vous invite à l'Opéra Bastille pour y découvrir la nouvelle production de l'Aïda de Verdi, mise en scène par Lotte de Berre. La distribution est 4 étoiles, Sondra Radvanovski, Jonas Kaufmann, Ludovic Tézier et d'autres qui sont dirigés par Michele Mariotti. Branchez-vous.
Samedi à l'Opéra, à retrouver sur France Musique et en podcast sur l'application Radio France. Avec Diapason, osez être classique. Au sommaire de mars, Kathleen Ferrier, pourquoi sa voix est éternelle. Benjamin Grosvenor, un pianiste surdoué. Astor Piazzolla, l'homme qui fit du tango un art majeur. un CD événement, les chefs-d'œuvre de Boccherini dans des interprétations légendaires et le programme complet des concerts France Musique. À retrouver dans Relax, l'émission de Lionel Esparza, de 15h à 17h du lundi au vendredi sur France Musique et en podcast.
France Musique.
France Musique.
Vous allez là.
Vous allez l'adorer.
France Musique, il est 8h. Très bon réveil. Et c'est l'heure de la chronique battement de cœur de Marc-Olivier Dupin. Bonjour et bienvenue Marc-Olivier.
Bonjour Saskia.
Aujourd'hui, vous nous parlez d'un rendez-vous choral important auquel nous espérons pouvoir nous rendre en juin prochain.
Et oui, le Florilège Vocal de Tours se tiendra du 18 au 20 juin 21. Ce concours international de chant choral nous a permis dans le passé de découvrir des merveilles telles que ce chœur islandais, le corps Langholmsfirkirkjur.
Mais dans le contexte sanitaire incertain, comment va se dérouler ce concours cette année, Marc-Olivier ?
Alors, exceptionnellement, il sera limité au chœur français en 2021, avec d'ailleurs une habitude de mettre à l'honneur les compositeurs français contemporains. Mais ces rencontres sont ouvertes à toutes les esthétiques musicales, et aussi avec une autre particularité, le Florilège se consacre également aux musiques anciennes avec un prix Renaissance en partenariat avec l'Université de Tours. Un chœur slovène interprète ici le Beata Trinitas de Jacobus Gallus.
Selon vous, quelle en sera l'atmosphère cette année ?
Bien évidemment, l'impossibilité d'accueillir des chœurs étrangers est bien triste, mais je pense que nos multiples chorales n'auront qu'une envie, après des mois d'abstinence chorale, retrouver le partage, l'échange et tous les bons moments que réservent de telles compétitions. Et n'oublions pas que nos chœurs amateurs et professionnels sont aussi d'une grande diversité stylistique, de la musique ancienne à la musique contemporaine, en passant par les ensembles de musique traditionnelle, de jazz, de pop, rock. Cette édition sera donc riche en couleurs, et les chœurs viendront d'autant plus nombreux que ces manifestations et les prix décernés constituent un véritable tremplin médiatique.
Plus que quelques jours pour s'inscrire, vous avez jusqu'au 1er mars pour participer aux rencontres nationales sur cette adresse florilegevocal.com. Nous vous mettrons l'adresse sur notre page de l'émission, sur francemusique.fr bien sûr. Marc-Olivier.
Et pour finir, écoutons une magnifique pièce d'Arvo Pärt, interprétée à Tours par le e-studio Youth Choir en 2019.
Merci beaucoup Marc-Olivier, on écoute ça tout de suite. On vous retrouve la semaine prochaine, bien sûr.
Avec joie.
Bonne journée à vous.
Bonne journée Saskia.
Dry, Hinter Kinder aus Fatima Darvupart, interprété ici par le studio Yes Choir. C'était en 2019. Il est 8h et presque 5 minutes sur France Musique.
Thank you.
Le tout début de la passion selon Saint-Jean de Jean-Sébastien Bach. Nous écoutions ici le Collégium Vocal de Grand et Philippe Hervègue à la direction. C'est une autre passion, la passion selon Marc, une passion après Auschwitz de Michael Levinas que vous proposeront l'Orchestre de Chambre de Paris et le Chœur Le Balcon dirigé par Maxime Pascal. Concert qui sera capté demain à 20h30 à la Philharmonie de Paris, à découvrir sur philharmonielive.fr, et puis concert qui sera bien évidemment également capté par France Musique et diffusé sur nos ondes le 5 mai prochain. Et c'est l'heure de notre reportage et on s'intéresse à ce bestiaire musical utopique. C'est ce que propose le collectif Tout reste à faire avec son projet Anima Ex Musica. Formé de 3 artistes, il expose régulièrement d'impressionnants insectes fabriqués à partir d'instruments de musique hors d'usage. Sophia Anastasio nous en fait la présentation.
Une sauterelle fabriquée avec 2 pianos, une araignée en mandoline et trompette ou encore un cloporte en tuyau d'orgue. Avec son bestiaire, le collectif Tout reste à faire offre une seconde vie aux instruments de musique qui ne sont plus utilisés. On écoute Mathieu Dessailly, graphiste et plasticien. Il fabrique depuis 8 ans ses anthropodes utopiques.
On a constaté que bon nombre d'instruments de musique avaient terminé leur carrière musicale, pour autant leur carrière esthétique était loin d'être fini. Et surtout, ce qu'on a constaté aussi en discutant avec les conservatoires notamment, c'est qu'un instrument, quand il faut le remplacer, ça coûte plus cher de le réparer que d'en acheter un neuf. Bon, le projet est un concours de plein de circonstances, mais un des fondements même du projet, c'était de se dire qu'est-ce qu'on peut faire à partir d'une carcasse d'instrument et qu'est-ce qu'on pourrait lui donner comme nouvelle vie, comme nouvelle fonction.
Un piano, un harmonium, un violoncelle et un métronome se voient ainsi transformés en corps, en pattes, en antennes de punaise par exemple. Ce projet permet de croiser 2 mondes différents, l'entomologie, l'étude des insectes, et l'organologie, celle des instruments, et de mettre en lumière une double invisibilité.
Quand nous fabriquons à partir de l'intérieur d'un piano ou d'un harmonium, bien souvent, les gens ne reconnaissent pas ou ne savent pas de quoi on parle. Et donc, quand on parle de montrer cette invisibilité double, c'est qu'effectivement, il y a bon nombre d'espèces d'insectes inconnus du grand public. Il en va de même pour, finalement, de quoi sont faits les instruments de musique.
Au moyen de capteurs placés sur ses créations, elles s'animent et produisent du son lorsque l'on s'y approche. C'est le compositeur et producteur David Chalamin qui donne vie musicalement à ces insectes.
En général, j'interviens dans la dernière phase du travail, c'est-à-dire que j'attends que l'insecte, la pièce soit créée et animée en général. Donc ça, c'est la partie de Vincent qui lui donne du mouvement. Et au moment où il y a ce premier souffle de vie, en général, on se parle, on se voit, ou il m'envoie une vidéo où je peux voir le mouvement de l'insecte et m'en inspirer pour moi lui redonner vie musicalement avec une création, voilà, une composition musicale.
Et dans ses compositions, David Chalamin ne tente pas vraiment de reproduire le son des insectes.
C'est toujours donné cette liberté de travailler de manière un peu plus abstraite et poétique, donc j'ai jamais ni cherché à aller trop dans le son de naturel de l'insecte, ni nécessairement dans l'instrumentarium utilisé pour sa fabrication. Notamment parce qu'il y a des instruments qui sont un peu surreprésentés, comme justement le piano qui est un magnifique outil pour eux de construction. Donc au début, on avait beaucoup d'éléments de piano, donc je voulais pas que toutes les pièces du bestiaire soient basées sur du piano.
En présentant ainsi ces insectes mécaniques, le projet revêt bien évidemment un aspect écologique. Mathieu Dessailly.
Quand nous avons démarré le projet, on parlait déjà des insectes à l'époque, mais j'ai l'impression que ça s'amplifie chaque année et que le problème de la disparition de bon nombre d'insectes inquiète au plus haut point les scientifiques et les gens qui se penchent là-dessus. Donc évidemment, au travers du projet, on en profite un petit peu pour, surtout auprès du jeune public, pour faire écho à ça. Et puis, s'ajoute à ça aussi le fait de recycler, c'est-à-dire que est-ce qu'on peut pas s'interroger sur les deuxièmes vies que peuvent avoir des objets. Donc à cet endroit-là aussi, le projet nourrir cette petite notion écologique. J'ai été batterie pendant 20 ans et je deviens abdomen de Bédoué sur ma dernière partie de vie, par exemple.
Ses œuvres ont été installées au Familistère de Guise. L'exposition est prévue jusqu'à fin avril. Espérons que les musées puissent ouvrir d'ici là pour les découvrir. Et fin mai, 3 créations doivent être présentées au musée d'Orsay dans le cadre de l'exposition « L'origine du monde ».
Le projet Anima Ex Musica, présenté par le collectif Tout reste à faire, avec les artistes Mathieu Desailly, Vincent Gadras et David Chalmin. Merci mille fois, Sophia, pour ce reportage.
Pensiero, sembra un amabile leggiadro viso, in pianto in riso e menzognero. La donna è mobile, qual mio malvento, muto d'accento, vedi pensiero.
Jonas Kaufmann, l'orchestre de l'Opéra de Parme, Pierre Giorgio Morandi à la direction pour cette air La Donna è mobile, extrait de Rigoletto de Giuseppe Verdi. Samedi à l'Opéra, c'est à 20h chaque samedi sur France Musique et Judith Chen vous présentera ce soir cette nouvelle production qui met en scène notre dieu à tous, l'immense Jonas Kaufmann qu'on écoutait ici dans Aïda de Giuseppe Verdi, représentation enregistrée le 12 février dernier à l'Opéra National de Paris, nouvelle production mise en scène par Lotte de Beer qui a installé l'intrigue au musée du Caire à la fin du 19e siècle, avec également à l'affiche Sondra Radvanovski et Ludovic Tézier dans les rôles d'Aïda et de son père. Une distribution 5 étoiles donc à écouter ce soir à 20h sur France Musique et à revoir, à voir en images sur Arte Concert. Allegro Risoluto, extrait de ce sublime deuxième trio élégiaque de Sergei Rachmaninov, interprété ici par Christian Tetzlaff, Tania Tetzlaff et Arthur Pizarro. 8h30 sur France Musique.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Imaginer de nouveaux instruments à partir de matériaux et d'objets usagés, c'est le travail très original mené par notre invité depuis plus de 20 ans. Bonjour Alain Guazelli.
Bonjour.
Bienvenue dans Musique Matin. Vous êtes cofondateur de l'association Lutry Urbaine, désormais Lutry Urbaine 9.3. Vous êtes luthier urbain. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
Luthier urbain, en fait, ça veut dire fabriquer des instruments à partir de matériaux de récupération que l'on trouve dans les villes, hein, en fait, urbain, c'est la ville, et on récupère des matériaux dans les encombrants, tout ce que les gens jettent, comme par exemple des tambours de des machines à laver, des étagères, des lits, du bois, du PVC. On récupère dans les zones d'activité, on récupère dans les bennes de chantier, partout en fait, cette société qui consomme de plus en plus rejette des matériaux. Nous, on a eu l'idée en fait de leur redonner une vie et de fabriquer des objets sonores et des instruments de musique pour pouvoir faire de la création musicale en fait.
Faut-il avoir une imagination débordante ? Y a-t-il des prérequis pour devenir luthier urbain, Alain Guazelli ?
Quand même, il faut déjà manier l'outillage, il faut savoir bricoler, manier une scie, un tournevis, une perceuse, un rabot. Et puis, moi personnellement, dans mon parcours, je suis musicien autodidacte, hein, j'ai étudié la musique bien plus tard, mais déjà j'ai été dessinateur industriel et puis j'ai fait pas mal de travaux de décoration dans l'habitation. Donc déjà c'est un chantier ça, un chantier musical, donc il faut quand même avoir quelques notions de matériaux, connaître un peu les matériaux, connaître les assemblages aussi, comment on peut assembler un tube d'échappement de voiture avec un sèche-linge pour en faire une basse éléphant. D'ailleurs, on a nommé tous nos instruments avec des petits noms. Donc, il faut quand même avoir quelques notions de bricolage.
Et cela dit, vous proposez à ceux qui nous écoutent, à nos auditeurs, à votre public aussi, d'apprendre à fabriquer des instruments.
Complètement, l'idée en fait de ce projet, c'est surtout de le partager en fait avec des gens qui n'ont jamais fait de musique. Moi, par ailleurs, je suis enseignant et l'idée de ce projet, ça est venue aussi parce que j'ai vu que les élèves, je suis enseignant en conservatoire, hein, j'apprends la batterie, la percussion et les musiques d'ensemble. Et je me suis aperçu en fait qu'il y a des élèves qui étaient en échec parce que ne rentraient pas dans le système de l'établissement, des institutions. Donc on s'est posé la question quand même, comment leur donner une place et par la fabrication d'instruments et les méthodes pédagogiques qui, donc sur ce projet, moi je ne suis pas tout seul, hein, il y a Jean-Louis Méchali qui est compositeur, c'est un ami avec qui on a monté ce projet. Donc on a réussi à monter des formes pédagogiques et des instruments simples à fabriquer à partir de leur environnement. Par exemple, une bouteille en plastique, comment on va la rendre sonore en découpant des franges qui vont faire en fait le bruit de la pluie, ou alors en mettant un tube de PVC à l'intérieur avec de l'eau, ça va faire un jazz aux flûtes. Voilà, à partir de l'environnement de leur habitation.
Et effectivement, l'association Lutry Urbaine, vous l'avez fondée avec Jean-Louis Méchali en Seine-Saint-Denis, oui, en 2000. Ça fait déjà un petit moment. Depuis toutes ces années, oui, J'imagine que vous avez constitué une impressionnante collection d'instruments. De quoi est-elle composée ?
Ah, énorme, énorme. Au départ, Jean-Louis a eu l'idée de ce projet. Du coup, moi, j'ai fabriqué dans ma cave à l'époque, récupéré et fabriqué quelques instruments. Et du coup, à partir de là, lui, il a écrit de la musique. Mais ça a été fulgurant, quoi. Il a écrit 20 minutes de musique avec des morceaux de fer, des tiges de tambour à laver, des pots d'échappement. Et du coup, cet instrumentarium, maintenant, au fil des années, chaque année, il a créé de la musique. Et du coup, nous, les luthiers, hein, puisque c'était un collectif, on a dû s'adapter aussi à faire évoluer, à enrichir cet instrumentarium. Au départ, ce qui est le plus simple dans la récupération, c'est de fabriquer des instruments de percussion. Après, c'est un peu limité. Donc du coup, lui, il a écrit des musiques mélodiques et harmoniques. Hein. Il est très fort d'ailleurs pour ça, et très fort pour écrire des motifs pédagogiques pour des gens qui ne savent pas jouer de la musique, qui peuvent tout de suite s'impliquer dans un orchestre avec des musiciens professionnels et jouer des parties simples, hein, d'imbrication à plusieurs voix. Du coup, au fil du temps, la musique s'est enrichie, donc on a fabriqué des instruments de toute famille, des instruments à cordes, des instruments à percussion, des instruments à vent. Donc, par exemple, on a des claviers en bois, avec du parquet, des étagères de lit, on a des claviers en cuivre, on récupère les tubes d'alimentation d'eau dans les maisons avec les joints de robinet, voilà, des rails de faux plafond, des claviers en verre, des claviers en PVC, donc ça c'est des descentes de gouttières qui récupèrent les eaux usées. Donc tout ça constitue en fait un instrumentarium qui est homogène avec des basses, des médiums et des aigus, qui est indispensable pour créer de la musique mélodique et harmonique. Mais on a une autre palette aussi, moi j'appelle ça la famille des idiophones, c'est-à-dire qu'il y a plein d'objets comme ça du quotidien qui font des sons, avec lesquels on peut créer des paysages sonores, et voilà, qui ouvrent des voies plus sur la musique contemporaine ou la musique expérimentale. Donc en fait aujourd'hui on se retrouve avec 50 mètres cubes d'instruments à stocker dans un local, et voilà, et l'histoire continue en fait.
Tout ça, en tout cas, est extrêmement visuel, hein, on imagine, oui. Avec beaucoup d'humour aussi, ce à quoi ça peut ressembler. Mais je vous propose d'écouter ce que ça donne. Vous nous avez choisi un extrait de Oboloé, Tout part de tout, composé par Jean-Louis Méchali.
Super.
Des instruments fabriqués à partir de déchets, d'objets du quotidien aussi, qui prennent vie dans ces créations instrumentales. Alain Guazelli, vous êtes le cofondateur de l'association Lutri Urbaine 9.3. Ces instruments qu'on écoute ici offrent un panel très varié de sonorités.
Bah, énorme, c'est énorme. Là, par exemple, le morceau qu'on écoute là, en fait, c'est des machines-outils, des machines portatives. C'est-à-dire que là, c'est l'instrumentarium, c'est deux perceuses, une lime à métaux, une scie, du papier de verre. Celui qui joue le papier de verre, il est soliste. Vous voyez, on a des, c'est vraiment une partie écrite avec des imbrications. Alors on peut aller, voilà, de la machine-outil au soufflet de bouteille accordé, au verre frotté. C'est une palette qui est infinie en fait, puisque tout est son. Donc à partir de là, on peut tout composer.
Mais justement, faut-il penser la composition différemment quand on écrit pour ces instruments-là ?
Bah, je pense que ça faudra en parler avec Jean-Louis, mais par expérience maintenant, avec toutes les créations qu'on a fait, oui, c'est quand même un défi d'imaginer une musique, un folklore, des ambiances avec des matériaux quand même qui sonnent quand même, qui sont quand même un peu pauvres. Dans la récupération, moi déjà à la base, je sais ce que je vais pouvoir réaliser comme instrument, mais il faut pouvoir composer des parties intéressantes écrites. Donc c'est quand même un défi, oui.
Mais alors je vais m'adresser aux musiciens que vous êtes. Faut-il penser les modes de jeu différemment ?
Ah ben carrément, c'est tout ce qu'on apprend au conservatoire, en fait, là, il faut en garder que la moitié, parce que ces instruments-là, pour les faire sonner, il faut adopter une technique qui est complètement différente. Moi, je suis batteur, j'ai appris la batterie, la percussion sur des instruments qui roulent, qui sonnent tout seuls au moindre geste. Mais là, la batterie, par exemple, la dormeuse, j'ai dû réadapter un mode de jeu technique pour la faire sonner, quoi. Donc, il faut vraiment mettre de l'énergie pour faire sonner ces instruments, ça c'est sûr.
Ces instruments qui font partie donc de ces lutheries inouïes, comme vous les appelez, c'est ça peut-être leur plus grand avantage, être à la portée de tous ?
Oui, l'idée c'est ça en fait. L'idée première de ce projet, c'est d'apporter la musique, de sensibiliser les gens, surtout les jeunes en fait, et tout public, à pouvoir, même au niveau écologique, à pouvoir regarder autrement le système de consommation. Par exemple, moi quand je mets mon linge dans la machine à laver, tout, pour moi elle sonne déjà mécaniquement, mais en plus ce tambour de machine que j'ai extrait, j'en ai fait... Je lui ai assemblé des tiges filetées, en fait on l'a nommé le sèche-note, pour moi c'est un autre regard, et avec ça on fait de la musique avec un tout public intergénérationnel. Moi je me souviens de créations où on était des enfants de 6-7 ans jusqu'à des adultes et des seniors, on jouait tous ensemble scéniquement. Donc oui, ça c'est vraiment une sensibilisation qui est importante, quoi. C'est pour porter un autre regard et puis créer, surtout créer, faire de la création musicale. Ça c'est important, oui.
Et effectivement, l'association Lutherie Urbaine 9.3 organise des actions autour de trois grands pôles, l'instrumentarium dont on vient de parler, la pédagogie et la création. Il y a eu en quelque sorte une renaissance de l'association Lutherie Urbaine 9.3. Vous collaborez avec deux autres associations désormais, Kenor, collectif de plasticiens du Pas-de-Calais, et Pépinot, association culturelle de Noisy-le-Sec. Parmi les projets sur lesquels vous êtes en train de travailler, Plume, poil, écaille, création jeune public, dont voici quelques notes. Un extrait de cette création jeune public, Plume, poil, écaille, qui sera donné à la Péniche Cinéma La Villette par le trio Somo, dont vous faites partie, Alain Guazelli. Notre très cher reporter Sophie Anastasio était venue faire un reportage il y a quelques semaines à peine. C'est ça qui m'a donné envie de vous inviter ce matin, d'ailleurs, Alain Guazelli. Je voulais en savoir plus. Racontez-nous de quoi sera-t-il question, justement, dans ce spectacle-là?
Alors, le spectacle, donc le renouveau de Lutherie Urbaine, hein, en lien avec Kenor et l'association Pépinot. Voilà, Pépinot, Richard Cailleux, lui qui est déjà aussi un compositeur et musicien, a créé un conte avec Fanny Charras, qui a écrit les textes d'ailleurs, qui va être édité au mois d'octobre. Ça s'appelle plume, poil, écaille. Donc c'est justement, c'est quelque chose qui m'a intéressé moi parce que c'est vraiment en lien avec l'écologie. Cette histoire, ce conte, c'est sur la déforestation. Donc c'est trois animaux qui sont dans la forêt. Et donc il y a des tableaux comme ça. Là, ce qu'on vient d'écouter, en fait, c'est la rencontre des trois petits animaux. Donc on est là sur scène, en avant-scène, avec trois costumes sonores équipés de sons. Là, pour le coup, c'est des sons très simples qu'on a tous dans l'environnement. Donc l'idée, c'est de monter un conte musical et de pouvoir le jouer en concert. Alors là, c'est en cours de résidence. D'ailleurs, on cherche des lieux pour nous accueillir. Et voilà, donc il y a ce projet-là, donc qui est fait par le trio Somo. C'est un trio de musiciens dont moi je fais partie, Richard Cailleux, et puis Nicolas Milouk, qui est guitariste. Et on joue tous sur les lutheries inouïes, de lutherie urbaine. Voilà, il y a ce projet-là de conte, et on a aussi le Lutte Inouïe, c'est-à-dire que c'est un projet où on reprend les compositions de Jean-Louis Méchali et de Richard Cailleux, dans le conte aussi d'ailleurs. Et puis on a un autre projet qui est plus installation sonore, qui s'appelle Arborescent. Donc ça, c'est en lien avec Kenor, Pascal Boustem, qui est sculpteur, et Anne Cotterelle aussi, qui est artiste peintre. Voilà, on va là fabriquer des arbres sonores, en fait. C'est en lien aussi avec le conte, la déforestation, les arbres sonores.
Des arbres sonores issus du recyclage.
Ouais, c'est-à-dire que voilà, on va par exemple, moi j'ai déjà réfléchi un peu. Je vais récupérer des extincteurs, voilà, et on va les suspendre quand on enlève tous les parasites. C'est vraiment des cloches sonores que je vais pouvoir accorder. Donc voilà, des matériaux, des tôles, des tubes, tout ça monté sur des structures, sur une belle structure sonore. Et normalement, on devrait pouvoir l'exposer à Montreuil-sur-Mer, dans une église, je ne sais plus comment elle s'appelle. Et voilà pour la première présentation.
Vous nous le direz, et puis on le communiquera à nos éditeurs, bien sûr. Alain Guazelli, si jamais moi j'ai envie de venir fabriquer des instruments, comment ça se passe?
Oui, vous appelez l'association, et on fait des formes de stages. Moi, je me déplace aussi pas mal dans les écoles. Le problème, c'est que là, comme on n'a plus de lieu, c'est un peu compliqué, donc on est un peu en résidence, mais on organise des stages. Donc les gens viennent avec une idée ou pas, viennent avec un matériau de leur environnement, et nous on le transforme en fait. Okay. Rien ne se perd, tout se transforme avec nous, et on fabrique des instruments simples à la portée et à la hauteur des compétences des gens au niveau de la fabrication.
Chers auditeurs,
si vous voulez, on pourra fabriquer une flûte harmonique, on pourra fabriquer une cuica dans une boîte de conserve avec une ficelle.
Tout est possible, une guitare raquette, oui. Un arbre à poils, des aquacongas, tout est faisable.
Voilà, tout est possible.
Je vous mettrai le lien, chers auditeurs, sur notre page de l'émission sur francemusique.fr, lutherieurbaine93.com pour bien vous enseigner sur ces stages. On va se quitter avec cet extrait de ce court-métrage suédois de 2001 qui est à revoir sur Arte. 6 percussionnistes à l'assaut d'un appartement, tout y passe, hein. Les batteurs électriques, vaisselle, tiroir, bol à croquettes du chat, four à micro-ondes, je vous laisse l'écouter. Merci beaucoup Alain Guazelli d'avoir été des nôtres ce matin pour nous parler de Lutherie Urbaine 9.3. À très bientôt.
Merci à vous, au revoir.
c'est le grand retour de Christophe Chassol.
Bonjour Saskia Deville.
Bonjour Christophe. Troisième et dernière chronique consacrée au grand Chick Corea cette semaine.
Oui, je vous disais à quel point j'ai passé, le temps que j'ai passé à relever cette musique, et à quel point elle avait influencé des tonnes de musiciens, des générations de musiciens. Il a quelque chose de tellement généreux, Chick, de tellement prolifique. Cette année, l'année 78, je crois qu'il a sorti 3 albums.
Et, tranquille.
Oui, tranquille. Et là, en 77, il a sorti The Leprechaun. C'est, le Leprechaun, c'est une sorte de lutin elfe. Et puis, en 78, il a sorti The Mad Hatter, qui parle de, inspiré d'Alice au Pays des Merveilles, de Lewis Carroll. On écoute. Oui.
Comme ça.
C'est un orchestrateur génial, hein, aussi. Who stole the tarts? Was it the king of hearts? Était-ce le roi de cœur qui a volé les tartes? C'est Gail Moran, sa femme, qui chante là. Voilà, on va aller vite.
Mais c'est dément.
C'est génial.
Je connaissais pas du tout.
Falling Alice, maintenant. Toujours Gail Moran qui chante. Je vous fais écouter ça parce que la grille d'accord est géniale. Son Moog là, il joue du Moog aussi. Là, il était pionnier aussi dans les claviers, dans les synthés, etc. Donc, je vais vous faire écouter maintenant un solo de piano, quoi. Donc voilà, on va. Le morceau s'appelle Dear Alice, pour encore Alice au Pays des Merveilles. Écoutez, le thème est génial et je vous ai mis comme la fin du thème et puis le solo, on va couper parce que ça va être très long, mais écoutez comment il improvise avec le batteur Steve Gadd.
On sent bien les années 70 là, quand même.
C'est le jazz samba, ça, vraiment un jazz samba. Écoutez cette façon d'improviser, sur deux accords mineurs. Pleurer, Chick. Non.
Et beaucoup de nos auditeurs aussi, je pense.
Alors, maintenant, j'aimerais vous faire écouter quand même quelque chose que j'ai beaucoup travaillé, moi, qui m'a appris beaucoup de choses en composition. Ça s'appelle, c'est dans The Leprechaun, donc cet album, encore un album concept de 77, la partie 2, The Leprechaun's Dream, le rêve du lutin. Alors, c'est quelque chose, il y a les partitions qui existent de ça, et j'ai tellement travaillé ça, ça m'a appris tellement de choses sur l'arrangement, l'orchestration. C'est juste un passage à la fin de cette partie, de The Leprechaun's Dream. Ça fait de se marrer.
Bon, j'adore la magie de la radio, mais je regrette pour nos auditeurs qui ne le voient pas à l'instant penser dans le studio. C'est quand même assez impressionnant.
J'adore ça. J'ai...
Un dernier extrait.
Oui, un dernier extrait. Alors, il est un peu long, j'espère qu'on pourra aller jusqu'à la fin, mais c'est Soft and Gentle, un morceau chanté avec Gail Moran, la femme de Chic, pour finir. La dernière phrase est Where all is serene. Elle veut l'emmener où tout est serein. C'est parti. Toujours des talents d'orchestrateur. Hein. He sits me on his throne. Elle parle de lui, elle parle de Chic, je pense.
Il m'a assis sur le trône.
Ouais. He makes me his queen.
Belle déclaration.
Gail Moran chantait d'ailleurs dans Mahavishnu Orchestra, c'est un petit détail.
Ah, c'est vrai?
Ouais. Bye bye, Chic. Merci Chic Corea.
Magnifique, merci à vous Christophe Choiseul pour cette troisième chronique consacrée à l'immense Chic Corea. On vous retrouve la semaine prochaine Christophe.
Oui.
Bon week-end à vous.
Bon week-end Saskia.
Et un petit mot sur notre concours du jour avant de se quitter. Bonjour d'abord à Gabrielle Oliver à Guyon. Bonjour.
Bonjour Saskia. Alors, la question du jour.
Question du jour. Pour remporter un disque Malheur Intime par le trio Georges Sand, il fallait deviner le prénom de Malheur. Est-ce Gustave, Tintin ou Giuseppe?
Est-ce que vous avez des blagues de temps en temps en réponse?
Oui, en fait, vous ne croyez pas si bien dire. J'en ai beaucoup d'auditeurs qui
les gens sont drôles, quoi.
Oui, Il y a un auditeur qui m'a écrit que peut-être que pour Alma, elle appelait Gustave son petit Tintin. On ne sait pas.
Bon week-end, Saskia.
Bon week-end à vous et bonne émission. France Musique est à vous. C'est tout de suite sur France Musique, évidemment. Le temps pour moi de remercier l'équipe tout de même. Marie Ferdinand, Félix Levachet, Alexandre Biard et Dalia. Merci à vous, chers auditeurs. À très bientôt, la semaine prochaine, bien sûr, sur les ondes. D'ici là, bonne semaine.
À réécouter sur francemusique.fr.